deux invités. Bonjour Marianne Alphand.
Bonjour.
Et bonjour Laurence De Villers.
Bonjour Pascal Claude.
Marianne Alphand, vous êtes écrivaine et vous êtes l'autrice du livre Pascal, tombeau pour un ordre. Laurence De Villers, vous êtes vous philosophe et autrice de l'essai Philosophie de Pascal, le principe d'inquiétude. Nous allons entrer dans vos livres dans les prochaines minutes, mais d'abord, écoutons ceci.
Ah tiens Pascal, c'est curieux, je suis justement en train de le relire en ce moment. Et alors ? Je suis très déçu. Le titre continue, ça m'intéresse. Non, je ne sais pas. D'abord, j'ai l'impression de le connaître presque par cœur, et puis ça ne m'apporte rien. Et puis je trouve ça assez vide, mais...
Jean-Louis Trintignant, qui interprète le rôle d'un certain Jean-Louis dans le film « Ma nuit chez Maud » d'Éric Rohmer, film sorti en 1969. J'imagine que vous ne partagez pas le point de vue de ce personnage. Alors, première question à toutes les deux, ça vous apporte quoi de lire encore Pascal aujourd'hui ? Marianne Alphand d'abord.
Ah, ça m'apporte quoi ? Mais c'est un auteur, comment dire, dont on ne se lasse pas. C'est-à-dire que, où qu'on l'ouvre, hein, parce que, bon, on en reparlera, mais
c'est épais.
C'est épais, mais les éditions actuelles témoignent d'un très grand désordre des fragments, donc on l'ouvre, et tout de suite, il y a quelque chose qui s'adresse à vous, qui vous parle. Alors que ce livre avait, enfin, qui n'en était pas un, hein, ses notes laissées à sa mort avaient toutes les chances au fond de disparaître, sauf conservées par la famille, etc. Ce livre exceptionnel, ça a même un côté stupéfiant. Ce livre continue à être lu et à parler à toutes sortes de gens. À des écrivains, à des réalisateurs, des cinéastes comme Rohmer, partout, tout le temps. C'était d'ailleurs, on peut dire, une des intentions de Pascal, c'était de toucher, c'était de nous toucher, c'est-à-dire de s'adresser à nous, d'avoir un ton au fond très personnel. Et ça continue à nous toucher.
Laurence De Villers, ça vous apporte quoi à vous de lire Pascal aujourd'hui ?
Eh bien, alors je renverserai votre question, parce que Pascal, c'est pas tant ce que ça m'apporte, c'est ce que ça me prend. Et c'est le premier rapport qu'on peut avoir à Pascal, même quand on le relit, comme dit Trintignant dans Ma nuit chez Maud, j'ai relu Pascal. C'est tout ce que ça me prend mes certitudes, ma tranquillité, même mes bonheurs, ce que je pensais être mes bonheurs, ça me prend aussi mes consolations. Et en fait, c'est pas tant ce que ça m'apporte que le fait que ça me laisse bien démunie. La lecture de Pascal m'ôte petit à petit des tas de choses auxquelles je me raccrochais. Et on se trouve, démunie, désarmée face à Pascal.
Est-ce qu'il vous déçoit parfois, Pascal, Marianne Alphand ?
Ah, jamais. Jamais. Il y a des auteurs comme ça dont on traquerait presque une espèce d'imperfection, une espèce de... un sujet de mécontentement. Jamais j'ai trouvé ça chez Pascal. C'est ça qui est... C'est une des choses étonnantes. Alors même que... On va dire que ce qui était... ce qu'on lui attribue comme projet, une apologie de la religion chrétienne. Même si Pascal ne prononce ou n'écrit jamais le mot apologie. Alors même que cette histoire d'apologie de la religion chrétienne est extrêmement loin des préoccupations du XXIe siècle. Y a peu de lecteurs de Pascal qui le lisent pour y trouver des raisons de croire. Y en a bien sûr, mais la plus grande partie des lecteurs ou des chercheurs qui s'occupent de Pascal ont laissé de côté cette dimension apologétique.
Et vous, Laurence De Villers, il vous a déjà déçu, Pascal ?
Non, moi j'ai dû lutter contre l'admiration que j'avais pour Pascal, donc j'ai choisi de travailler pendant des années sur Descartes. pour éviter de succomber trop facilement à la tentation. Ça a été une tentation permanente, Pascal, et j'avais dans l'idée que je ne travaillerais pas sérieusement si je travaillais avec passion, ce qui est sans doute une erreur. Et maintenant, ayant atteint l'âge auquel Descartes disait d'ailleurs qu'il fallait écrire les méditations et remettre tout en cause dans sa vie une bonne fois pour toutes, oui, j'ai décidé de succomber à la tentation et je pense que je ne ferai plus machine arrière. C'est ça aussi, Pascal, c'est que les pensées, parce que c'est principalement quand même ce qu'on lit de Pascal, voire exclusivement, les pensées fonctionnent un peu comme un piège et je pense que c'est l'intention pascalienne aussi. C'est que il vous demande d'admettre quelque chose qui semble une toute petite chose, par exemple vous dire vous êtes embarqué. C'est-à-dire que la vie, c'est un cours, c'est un mouvement, c'est une vitesse. La vie, on prend toujours le train en marche dans la vie. Et vous lui dites oui, bien sûr, on est embarqué, oui, c'est vrai. Naître, c'est toujours naître quelque part au beau milieu du film, d'une certaine façon. Mais quand vous lui concédez ce qui semble peu, il y a un piège qui se referme sur vous et vous êtes pris dans la machinerie pascalienne. Donc, il y a une fascination et... ce que je trouve très surprenant et je pense que c'est intéressant de le dire de nos jours, comme le disait Marianne Alphand, je trouve incroyable que ce croyant rigoriste, austère, sans concession, parle le plus aux non-croyants. Et ça, je trouve que c'est un tour de force de Pascal d'être jamais là où on imagine.
À quand remonte votre première fois avec Pascal? Qu'avez-vous lu et qu'avez-vous pensé en le découvrant, Marianne Alphand?
C'est le lycée, évidemment, c'est le programme scolaire. Et donc, on a un petit exemplaire des Pensées de Pascal, qui est un petit volume très ingrat de l'édition de Brunswick, où c'est écrit en tout petit. Puis bon, c'est précédé par des tas de... par les œuvres scientifiques de Pascal. Et on nous l'ouvre à une pensée numérotée, elles sont toutes numérotées. Et on nous fait commenter quelque chose sur la rhétorique, la vraie éloquence qui se moque de l'éloquence, ou alors les manières d'écrire. Ou alors on vous l'ouvre sur la deuxième section, qui est une section plus morale chez Brunswick. Et donc, voilà, on commente quelque chose sur le divertissement. Donc ça aurait toutes les raisons d'être, comme dit... Jean-Louis Trintignant, décevant, barbant, lié à l'école, on va dire.
Et malgré cette aridité première, vous avez été séduite.
Mais oui, mais bien sûr. Ne serait-ce que parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on nous fait commenter est minuscule à l'intérieur de ce très grand ensemble. Et donc, on a l'impression qu'il y a un enjeu. Un enjeu. Et que ça nous concerne. Et donc, il faut continuer.
Laurence Devillers, votre première fois à vous avec Pascal?
Alors, c'était en cours de français et je n'ai pas eu de cours sur Pascal en philosophie. En fait, ma génération, je pense que celle de Marianne Alphand aussi, Pascal comme Montaigne n'appartenait pas au cursus philosophique qu'on étudiait et en terminale et à la fac. J'ai pas eu de cours sur Pascal à l'université alors que j'avais choisi philo, déjà à Normalsup non plus d'ailleurs. Et donc c'était surprenant que cet auteur, alors peut-être que c'est sa difficulté aussi, est-ce qu'il appartient à l'histoire de la philosophie, est-ce qu'il est un philosophe au même titre que Descartes ou Hegel, ça reste une question, alors pas pour moi, parce que je pense que c'est même le contraire, c'est-à-dire que si l'histoire de la philosophie n'intègre pas Pascal dans son cours, il y a un vide de sens. Une histoire de la philosophie sans Pascal est une histoire de la philosophie qui perd de sens. Mais en tout cas, à
pourquoi
mon époque, quand... parce que je pense que Pascal, d'abord, comme tous les grands philosophes, a été un inventeur de concepts, c'est-à-dire qu'il a... il a réussi, à travers certains mots, à nous faire penser des choses qu'on ne pensait pas. Le divertissement, c'est un concept pascalien. Et sans lui, il y a des réalités de notre vie, de la vie humaine, de la condition humaine, la réalité du monde, qu'on ne connaîtrait pas. Donc rien que pour ça, on ne peut pas... si on exclut Pascal de l'histoire de la philosophie, on appauvrit la philosophie. Et puis ensuite, parce que Pascal est en discussion avec les philosophes qui le précèdent, et il est en discussion aussi avec la suite. Par exemple... ça va peut-être vous étonner, mais un des plus grands pascaliens qui le revendique, c'est Nietzsche. Ce qui est surprenant, hein, l'athée autoproclamé, il le dit, il dit rien de grand s'est fait en philosophie depuis Pascal, et il ajoute, ce que j'aime beaucoup, les Allemands ne comptent pas. Donc, ça veut dire quand même Kant et Hegel.
Oui.
Mais c'est Nietzsche qui a raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se joue dans l'histoire de la philosophie ou ce qui se rejoue à chaque fois si on exclut Pascal. En tout cas, moi, la première fois que j'ai eu accès à Pascal, c'était pas du tout en cours de philosophie, c'était en lettres, et je m'en souviens très bien. J'ai été stupéfaite par le fait que ce soit beau. C'est d'abord une expérience esthétique, parce que je pense que j'ai pas bien compris ce qui s'y passait, hein. Mais j'ai compris qu'il était possible que la pensée puisse être belle. Et ça a été pour moi indélébile. C'est-à-dire que la réflexion, le conceptuel, l'abstraction, la pensée, la philosophie, ça peut être une expérience esthétique. Et en fait, ça m'a guidée pour la suite.
Alors, question que vous avez soulevée, Pascal, est-il un philosophe ou plutôt un théologien? On va écouter Philippe Sellier, spécialiste de Pascal et éditeur des Pensées.
C'est un théologien, moi, c'est ce que on sait maintenant depuis une cinquantaine d'années, quoi. C'est un grand théologien. La différence entre théologie et philosophie, c'est que le philosophe est une personnalité qui réfléchit de façon laïque, sans référence religieuse. Or, vous ne pouvez pas dire ça de Pascal. Il est imprégné de sa foi catholique. Et donc, il réfléchit, il philosophe, il fait de la philosophie en un sens, mais sur un fond religieux.
Philippe Sellier, en 2020, qu'est-ce que vous répliqueriez, Marianne Alphand ?
Je répliquerais que je ne sais pas. Parce que, comme je le disais tout à l'heure à Laurence, en arrivant ici, oui. Je lui disais, nous avons la même... J'ai commencé comme vous, c'est-à-dire dans Malsup, l'agrégation de philosophie, etc. Tout était fait pour que je fasse de la philosophie, et je m'en suis détournée. Ce qui m'intéressait, c'était l'écriture. Donc,
et la beauté dont parlait peut-être Laurence de Villers il y a quelques instants.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Pascal...
Le style.
Voilà, le style, je ne le prenais pas comme un objet philosophique, ni comme un objet de théologie. Je le prenais effectivement comme... une sorte de concentré de beauté, et c'est comme ça que je suis restée avec lui jusqu'à maintenant.
Vous parlez de la musicalité de ses textes d'ailleurs.
Oui, oui, c'est très musical. Il y a
une musique répétitive.
Une musique répétitive,
qui berce, étourdit, voilà. Porte la lecture, écrivez-vous.
Oui, absolument, parce que à partir du moment où on n'essaye plus de construire un ordre, c'est-à-dire on met, comme disait Pascal, papier sur table, c'est-à-dire des fragments. Et à ce moment-là, quand on considère toutes ces liasses qui ont été défaites, etc., on s'aperçoit qu'il y a des thèmes qui reviennent. On a des espèces de phénomènes d'écho, et qui sont magnifiques, magiques.
Alors, je me tourne vers vous maintenant, Laurence de Villers, philosophe et pas du tout théologien. Pascal.
Alors d'abord, je suis très mal à l'aise parce que Philippe Sellier est mon maître.
Ben oui, vous lui dédiez votre nouveau texte d'ailleurs.
Oui, je lui dédie mon livre, donc ça va être vous me mettez dans un
combat. Je suis désolée.
Philippe Sellier est mon maître, mais vous savez bien ce qu'il arrive, hélas, au maître,
et
c'est que les élèves ne les suivent pas, en tout cas les suivent jusqu'à un certain point. Là où je dirais exactement comme Philippe Sellier, c'est que oui, on ne peut pas nier que la vérité ultime qui vient comme éclairer les pensées, c'est la vérité de la religion chrétienne. Le dernier mot des pensées, c'est « il y a un Dieu, il s'est incarné et il nous sauve ». Donc oui, les vérités chrétiennes viennent éclairer l'ensemble des vérités des pensées. Mais réduire les pensées à une apologétique, c'est-à-dire à une défense des vérités du christianisme, c'est précisément réducteur. Je pense qu'il y a une philosophie chez Pascal, une
philosophie
armature
chrétienne.
Alors, si vous voulez, on peut, pour être parfaitement exact, on peut dire effectivement que c'est une vérité, une philosophie chrétienne, dans le sens où le christianisme irrigue et éclaire les concepts, mais les concepts fonctionnent par eux-mêmes. Il y a une opérativité conceptuelle, il y a une force, une puissance conceptuelle qui est autonome, à tel point que, effectivement, on peut retenir de Pascal le concept de divertissement et ne pas le relier au christianisme. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le lire, mais je dis qu'en tout cas, cette défense, si défense il y a du christianisme dans les pensées, elle se fonde sur une philosophie parfaitement originale et autonome, qui ces concepts fonctionnent par eux-mêmes. Et puis j'ajouterai juste un dernier point. Oui. Si Pascal était effectivement un théologien, il se passerait deux choses. D'abord, on ne le lirait plus, parce que Pierre Nicole, dont vous avez lu l'éloge funèbre en quelque sorte, il dit il en restera pas grand-chose, on ne lira pas Pascal. Bah, il s'est trompé, c'est lui, Pierre Nicole, qu'on ne lit plus. Et Pascal, on continue à le lire, et comme je le disais, je pense que la plupart des lecteurs de Pascal ne sont pas croyants. Et puis la deuxième chose, c'est que si on veut vraiment lire un Pascal théologien, il y en a. Il y a les écrits sur la grâce, qui sont de la technique même théologique, et puis il y a des opuscules qu'on ne lit pas ou peu, à part les spécialistes de Pascal, à part Philippe Sellier, qui le connaît très bien, de la conversion du pécheur, c'est un premier opuscule, et le second est du bon usage des maladies. Là, si vous voulez un Pascal chrétien, théologien, on le trouve. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au moins dans 60% des pensées, du massif des pensées, donc ces écrits d'un mort, hein, en fait, ces notes d'écriture, la théologie est ou absente ou archi-minimale.
On va écouter maintenant un autre éditeur des pensées de Pascal, à savoir Louis Lafume.
Pascal prenait ses notes sur des grandes feuilles de papier, et non sur des petits bouts. Si l'on a trouvé dans sa chambre, après sa mort, tant de petits bouts de papier, c'est qu'il avait découpé ces grandes feuilles. S'il les a découpées, c'est qu'il avait l'intention de les classer, en vue de l'ouvrage sur la religion qu'il préparait. Puisque Pascal nous a laissé un classement assez poussé, qui retient plus de 50% des fragments écrits en vue de son ouvrage, c'est ce classement qu'il faut consulter pour interpréter les textes.
Louis Lafuma, c'est une archive INA de 1956. Blaise Pascal, qui utilisait donc des grandes feuilles de papier, des feuilles qu'il pliait, Marianne Alphand, bien souvent.
Oui, c'est fascinant d'entendre Louis Lafuma, parce que pour moi, quand j'écrivais ce Pascal, Tombeau pour un ordre, il était un peu ma référence. C'est-à-dire que c'était un homme d'affaires. Il était directeur des papeteries Navarre et Lafuma, et il en est dépossédé en tant que juif au moment de la guerre. Et donc il se retrouve en proie évidemment à beaucoup de mélancolie, de frustration, de rancune. Et il cherche une espèce de consolation. Il pense à Pascal, et à ce moment-là, ce qui le frappe justement, c'est le côté matériel. Et donc, il le dit, je ne suis pas un philosophe, je n'ai aucune expertise, ni théologien bien sûr, je ne suis rien, mais je vais m'occuper de ces bouts de papier, et je vais voir ce qu'on peut en faire. Bon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur Pascal, c'était cette dimension matérielle, complètement extraordinaire, qui a échappé pendant très très longtemps à la connaissance, puisque les premières éditions sont faites, alors là, évidemment, par les proches de Pascal, et puis ensuite tout le monde croit que voilà, ce volume qui a été publié, au fond, reflète plus ou moins la réalité, donc on le critique, etc. Et c'est au début du 19e siècle, c'est Victor Cousin qui va à la Bibliothèque nationale et qui tombe sur ce qu'on appelle le recueil original, c'est-à-dire ce très grand volume où on a collé de façon très très approximative, selon une sorte de puzzle, on a recollé les fragments pour pas les perdre. Voilà. Alors on a combiné, mal combiné évidemment, c'est-à-dire que si on les prend dans cet ordre-là, c'est encore plus fou, si je puis dire, que n'importe quel montage. Et donc c'est lui qui dit, mais attendez, on lit Pascal, mais c'est pas Pascal. Et donc commence ce grand...
Évidemment, et donc Pascal, c'était quoi? C'était des mots sur des feuilles qu'il pliait, alors, et avec lesquelles il formait des sortes de liasses, c'est ça?
Alors, en fait, il écrit sur des grandes feuilles, il sépare les thèmes qui lui viennent à l'esprit par un petit trait, etc. Et puis, bon, ça formait certainement beaucoup de papier. À un moment de sa vie, il se dit qu'il va mettre tout ça en ordre, et donc il découpe ses feuilles de papier et il coud ensemble les petits fragments pour en faire des liasses.
Et il faut dire aussi que Pascal n'avait pas forcément une très très belle écriture, et dans certains cas, ça n'est pas tellement évident de savoir ce qu'il a écrit. Un exemple que vous donnez dans votre texte, Marianne Alphand, a-t-il écrit « athéisme manque de force d'esprit » ou « athéisme marque de force d'esprit » ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Oui, alors on s'écharpe bien sûr sur ces, sur ces mots, disons, presque illisibles. Mais la fascination pour les mots eux-mêmes, pour ces morceaux de papier, ça a donné lieu à des, on va dire, à des passions du manuscrit complètement extraordinaires. Je crois que Pascal est certainement l'auteur qui a été le plus étudié, le plus adoré, vénéré, mais en même temps contesté à travers le manuscrit.
Et Dieu dans tout ça.
13h15, 14h. Très nombreuses seraient les spécialistes de Pascal qui vous répondraient non.
Ouais.
Et c'est bien pour ça que j'ai essayé de m'y intéresser. Alors il y a quand même un fragment qui porte un titre de la main de Pascal, essentiel, qui s'appelle « Conditions de l'homme ». Et il énumère, il détaille cette condition de l'homme, inconstance, ennui, inquiétude. Et il y a un autre fragment où il dit « J'ai l'esprit plein d'inquiétude, je suis plein d'inquiétude, devrais-je dire. » Donc, les fragments qui traitent de l'inquiétude ne sont pas nombreux, ce n'est pas des fragments aussi longs que les fragments qui traitent du divertissement, qui sont parmi les fragments les plus longuement rédigés. Mais à chaque fois, l'inquiétude advient à des moments clés du raisonnement de la philosophie pascalienne. L'inquiétude intervient quand il s'agit de décrire la condition humaine, de dire ce que nous fuyons de cette condition et de donner la solution possible pour arrêter de fuir la vérité de notre condition. Donc sur ces trois moments clés de l'œuvre, l'inquiétude apparaît. Elle apparaît dans le fragment que je viens de vous donner, où il s'agit de dire de quoi est faite la condition de l'homme. Donc l'inquiétude se trouve à la fin d'une liste qui n'est pas une liste. Très souvent chez Pascal, on a l'impression d'avoir une cohérence avec des séries, des énumérations, et il y a toujours un mot qui ressemble pas aux autres. L'inquiétude, c'est presque le compte. C'est